Europe 1.
Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Richard Cœur de Lion reste pour nous tous le grand souverain anglais immortalisé par Disney dans son Robin des Bois. On a en mémoire la lutte acharnée de ce roi contre son frère Jean sans Terre, qui profite de ce que ce frère est au loin pour s'emparer du royaume d'Angleterre par les moyens les plus vils. Pourtant, ce n'est pas cette rivalité avec son frère qui a fait entrer Richard Cœur de Lion dans l'histoire. Si son nom a traversé les siècles, c'est avant tout pour sa participation à la Troisième Croisade. Il en a été la figure centrale, il s'y est couvert de gloire. C'est cette épopée de la Troisième Croisade que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode en deux parties. Première partie, partir ou pas en Terre Sainte. Nous sommes le 2 octobre 1187. Jérusalem vient de tomber. La ville sainte a été prise par les infidèles, ces sarrasins que l'on nomme aussi mahométans. Leur chef est un grand combattant nommé Saladin. L'Europe chrétienne est stupéfaite, anéantie. À dater de ce jour, les croyants sombrent dans une sorte de deuil continuel. Comment, moins d'un siècle après Godefroy de Bouillon, qui avait glorieusement libéré le tombeau du Christ, la ville sainte est retombée aux mains des infidèles? La colère de Dieu semble s'être abattue sur le monde chrétien. Des signes funestes apparaissent dans le ciel. Le jour même de l'entrée de l'armée de Saladin à Jérusalem, des moines ont vu la lune descendre jusqu'à toucher terre, puis revenir à sa place dans le ciel. L'ordre du monde est bouleversé. Un chevalier a vu en songe un aigle tenant dans ses serres 7 javelots. L'oiseau survolait une armée en déroute, tandis que résonnait un cri sinistre. « Malheur à toi, Jérusalem !» Dans les monastères et les églises, des crucifix suintent du sang. Aucun doute possible. Si Jérusalem est tombée aux mains des mahométans, c'est à cause des péchés des chrétiens. Il faut faire pénitence, jeûner, prier et demander le pardon de Dieu. Le pape Grégoire VIII, qui a remplacé un prédécesseur mort de chagrin à la suite de la terrible nouvelle, exhorte les chrétiens. Il faut apaiser la colère de Dieu. Rendez-vous compte que même la vraie croix, portée en tête des croisés, n'a pu apporter la victoire sur les infidèles. Pénitence, pénitence. La prise de Jérusalem est un tel traumatisme pour le monde chrétien que dans le mois qui suit cet événement, le pape Grégoire VIII lance depuis Rome un appel à la croisade. Il faut délivrer le tombeau du Christ. En France, comme le fit jadis le fondateur de l'abbaye de Clairvaux, Bernard de Clairvaux, eh bien son successeur Henri d'Albano se fait le promoteur enflammé de la nouvelle expédition. Entre ces deux hommes de Dieu, on retrouve la même filiation spirituelle, le même discours. Tuer un infidèle, c'est lui donner le salut et gagner l'indulgence plénière pour soi-même. Mourir en combattant l'infidèle, c'est aller directement au paradis. Singulière époque que ce Moyen-Âge, où deux religions ennemies offrent à leurs fidèles respectifs des modalités de salut identiques. En France, en Angleterre, au lieu du christianisme, l'appel solennel a notamment frappé au cœur un jeune homme déjà connu pour sa fougue et son courage. Richard, fils du roi Henri II d'Angleterre, héritier de la couronne depuis la mort de son frère aîné en 1183. Richard est un guerrier de forte stature. Décrit par ses contemporains comme plus haut que la moyenne, il est doté d'une puissante carrure, fruit d'une solide formation au métier des armes. Les descriptions de son visage varient selon la fantaisie des auteurs et des siècles.
Ses cheveux étaient blonds et naturellement bouclés.
Une épaisse moustache couvrait sa lèvre supérieure. Sa barbe était courte et très soignée. Ses yeux, d'où partaient des flammes dans les emportements de la colère ou dans l'ardeur des combats, mais dont l'expression terrible devenait douce et d'une irrésistible séduction dans la familiarité de la vie privée, était grand et d'un bleu limpide. C'était un homme superbe. Son nez droit, ses narines larges, les traits de son visage réguliers et fortement accentués, son attitude martiale. Tout dans Richard révélait une de ces fortes natures faites pour dominer, non pour être dominé. Sur son vaste front, on semblait lire ces mots écrits par une main invisible. Commandement, majesté, noblesse, honneur, loyauté, courage.
Le jeune homme se croise en ce mois de novembre 1187. Se croiser, c'est s'engager à aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. S'il est paré de toutes les qualités qui font d'un homme un vainqueur, il se trouve pourtant dans une situation très inconfortable. Héritier en puissance de la couronne d'Angleterre, il est encore assujetti à son père, le roi Henri II Plantagenet. Or, ce dernier est en conflit ouvert avec le roi de France Philippe Auguste. Lorsqu'il apprend que son fils s'apprête à partir en croisade, Henri II l'accuse de vouloir abandonner les affaires en cours. Au reste, son père n'est pas le seul vis-à-vis duquel Richard se montrerait déloyal en partant en Terre Sainte. Ne s'est-il pas engagé par serment à épouser la sœur du roi de France Philippe Auguste ? Richard semble ne plus avoir que faire du conflit qui oppose la France à l'Angleterre. Pour cette âme fervente et prise de gloire, il est évident que la perspective de délivrer le tombeau du Christ importe bien davantage que d'arracher une ville de France à Philippe Auguste. À ses yeux, prendre Jérusalem est autrement plus exaltant qu'assiéger Châteauroux. Chamailleries entre Français et Anglais d'un côté, mission divine de l'autre, il n'y a pas à hésiter. Richard se croise donc lors d'une messe à la cathédrale de Tours. S'il n'est pas le seul à répondre à l'appel du pape, il est à coup sûr le premier. Derrière cette étonnante décision, venant d'un jeune homme connu pour son impétuosité au combat et son sens pragmatique du terrain durant les batailles, on découvre un cœur habité par un idéal caractéristique de l'esprit chevaleresque de l'époque. Brutalité et mysticisme ne font alors pas seulement bon ménage, ils sont unis par des liens dont se porte garante l'Église, promotrice de cette étonnante vocation où se conjugue, fait très singulier dans l'histoire du monde, ce que l'être humain comporte d'aspiration au ciel et d'appétit pour la bestialité. L'homme qui, en début d'année 1188, s'apprête à partir pour Jérusalem est de cette trempe-là, caracolante orgueilleusement, parée des attributs du ciel et de l'enfer. Bientôt, alors que tous deux ont fulminé contre la décision de Richard de partir en Terre Sainte, Philippe Auguste et Henri II vont aussi se dire prêts à se croiser, et ce, à la suite d'un extraordinaire concours de circonstances. Longtemps restés sourds aux appels à la croisade du nouveau pape, Clément III, ils finissent par prêter l'oreille au chef de la chrétienté, sans doute lassés de passer leur temps à se disputer d'infimes portions de territoire. D'un commun accord, ils décident de cesser provisoirement les combats et de se réunir pour écouter ce que Rome a à dire dans les affaires de Palestine. Ils choisissent pour ce faire un lieu hautement symbolique, un grand arbre près de Gisors en Normandie, appelé Orme des Conférences. Un arbre sans doute multiséculaire puisque, nous dit la chronique, 8 hommes sont nécessaires pour en embrasser le contour et son feuillage s'étend sur plusieurs arpents. Cet arbre, serti de fer par Henri II, a de tout temps présidé aux rencontres solennelles entre les rois français et anglais. Et c'est donc là que se retrouvent Henri II, Philippe Auguste et le plus gros de la noblesse de France. Quelle n'est pas la surprise de cette illustre assemblée, de voir soudain apparaître et se joindre à eux, courbé par l'âge et la fatigue, le front marqué du sceau de la pénitence et de la prière, l'illustre Guillaume de Tyr, saint évêque, venu de la lointaine Syrie pour exhorter les princes chrétiens à partir pour Jérusalem. Devant lui, le silence se fait. Durant de longues minutes, le saint homme expose le sort funeste de la ville sainte.
Vous vous battez ici pour le rivage d'un fleuve, pour les limites d'une province, pour une renommée passagère. Tandis que les infidèles foulent les rives de Siloé, envahissent le royaume de Dieu et que la croix de Jésus-Christ est traînée ignominieusement dans les rues de Bagdad. Vous versez des flots de sang pour de vains traités, tandis qu'on outrage l'Évangile.
En entendant le vieil homme, Philippe Auguste et son rival Henri II ont-ils été saisis de honte et d'effroi ? Nul ne le sait. Ce qui est certain, c'est que le sermon de Guillaume de Tyr a grandement ébranlé les cœurs. Au terme de la rencontre, les rois de France et d'Angleterre tombent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Emboîtant le pas à Richard, leur fils et virtuel beau-frère, ils décident de se croiser à leur tour. Les préparatifs de la croisade sont longs et fastidieux. On n'emmène pas si facilement des milliers d'hommes au combat, à des milliers de kilomètres, sans une minutieuse organisation et surtout sans argent. Les mois passent. Henri II Plantagenet meurt le 6 juillet 1189. En septembre de la même année, Richard, qui était déjà paré du titre prestigieux de duc de Normandie, est sacré roi d'Angleterre. Et il n'a pas perdu son temps. L'impôt créé pour financer la croisade a permis d'équiper la formidable armée qui va prendre la mer pour la Terre Sainte. Il a été bien plus efficace que Philippe Auguste, qui lui n'a pas réussi à collecter efficacement les sommes nécessaires. Richard, lui, n'a pas hésité à déclarer à ses sujets
« Je suis prêt à vendre Londres si je trouve un acheteur ».
Les croisés réunis pour cette extraordinaire aventure sont pour l'essentiel issus de la noblesse. C'en est fini des croisades populaires qui attiraient les pauvres gens comme les notables. L'appel, quoique solennel, est quand même soumis à la décision libre et consentie de chacun. Il est même conseillé, avant de se croiser, d'en discuter avec sa femme. En revanche, les privilèges accordés aux volontaires sont les mêmes que dans les précédentes expéditions. Indulgence plénière en cas de mort au combat, à condition de s'être confessé d'un cœur contrit la veille de la bataille. Suppression de l'intérêt dû au remboursement des dettes contractées avant le départ. Protection assurée par l'Église, des familles et des croisés. Autant de garanties qui ont raison des volontés les plus rétives et qui attirent évidemment les malfrats soucieux de se blanchir à cette occasion. Le 2 juillet 1190, Richard et Philippe Auguste se retrouvent à Vézelay, d'où ils entament leur périple commun pour la Palestine. La chronique avance le chiffre de 100 000 croisés. L'historien Guizot a montré que ce compte, comme tous ceux qu'avancent les mémorialistes de ces époques reculées, est bien exagéré. Il veut en tout cas montrer que les effectifs étaient pour le moins impressionnants. À Marseille, on embarque pour la Sicile. Richard y retrouve sa sœur Jeanne, veuve du roi Guillaume II, prisonnière du nouveau monarque de l'île, un certain Tancrède. Richard libère sa sœur, confisque son douair, c'est-à-dire la somme d'argent qui lui était due par héritage de son défunt mari. Bon, il n'y a pas de petit profit, surtout quand il faut financer les croisades. Philippe Auguste, lui qui est arrivé en retard, découvre avec stupeur que le pavillon de Richard, le pavillon donc son drapeau, son emblème, flotte sur Messine, capitale de l'île. Commence alors une rivalité qui ne cessera de grandir entre les deux hommes et que les historiens ont interprété comme un ressentiment croissant de Philippe Auguste envers Richard qui partout le devance et le domine. À Messine, les croisés se livrent rapidement aux excès propres à ce genre d'expédition, fussent-elles mille fois bénies par Rome. On vole, on viole, on boit, on tue. Richard établit un règlement strict destiné à punir les coupables d'effraction selon la gravité de celle-ci. On interdit les jeux d'argent sous peine de fouet ou du passage sous la quille d'un bateau. Peu à peu, le roi d'Angleterre, qui est déjà connu à l'époque sous le surnom de Cœur de Lion, se construit l'image d'un monarque intransigeant, juste et saint. Et c'est précisément là l'une des grandes erreurs commises par les historiens du XIXe siècle, d'avoir voulu, sous prétexte de donner une image unifiée du personnage, occulter la part d'ombre de Richard. Comme ses croisés, il ne crachait pas sur les prises de guerre féminines. Comme eux, il lui est arrivé de violer et de mener d'atroces massacres, si l'on en croit la chronique. Ces excès sont accompagnés, il est vrai, de mouvements de repentir ostentatoires. On le décrit acceptant le fouet, se jetant à genoux dans les larmes pour obtenir le pardon de l'Église. Avant de quitter Messine, Richard rencontre secrètement Joachim de Flore, ascète, connu jusqu'alors pour ses prophéties apocalyptiques. Il l'interroge sur l'issue de la croisade. Mais que penser de ces prophéties? Richard verra-t-il vraiment Jérusalem? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré au roi Richard Cœur de Lion aux croisades.